la mam pega de an e mam la ka tor gal kon ya ba chi an
le défouloi de Alain Alain l'homme de Boulevaka
et tout de suite des infos.
Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abbas Ouédraogo.
À la une de l'actualité, terrorisme au Burkina. Au moins 83 présumés terroristes neutralisés en un mois au Sahel et au centre-nord dans la période allant du 15 juin au 15 juillet. C'est le bilan fourni par l'armée dans son bulletin mensuel sur les opérations de sécurisation. Une commission interministérielle va statuer dorénavant sur les dossiers de demande de cession des terres destinées à la promotion immobilière. Les membres de la dite commission au nombre de 9 ont été installés ce lundi. La campagne pour la présidentielle se poursuit au Kenya. Raila Odinga a tenu une conférence de presse avec sa colistière, l'avocate de formation Martha Kawa. Il a exhorté la commission électorale à garantir la transparence et l'équité du scrutin. La destruction des ponts et des ouvrages de franchissement par les groupes armés terroristes pourrait présager des attaques de grande envergure. C'est ce que pense l'analyste et expert en sécurité Mamoudou Savadogo. Il est l'invité de la rédaction. Le développement des titres dans un bref instant. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Oméga. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Parlons lutte contre le terrorisme pour ouvrir ce journal. Entre le 15 juin et le 15 juillet dernier, 83 terroristes ont été neutralisés, selon le bilan dressé par l'état-major général des armées dans son dernier bulletin mensuel. L'armée note une relative accalmie, marquée néanmoins par des attaques dans la boucle du Moon et le centre-nord notamment. Pour ce qui est de la destruction de certains ponts, l'état-major annonce leur reconstruction et la surveillance des autres ouvrages. Adam Skaled Ouédraogo nous fait le point.
L'opération dénommée Coural, conjointement organisée avec le Niger, a, selon l'armée, fait un assaut, d'abord sur une base terroriste à quelques kilomètres de Seitenga, qui a permis de neutraliser 15 terroristes et de détruire une importante logistique. Ensuite, une deuxième base logistique a été détruite dans les environs de Sorlane avec 19 terroristes tués, indique le bulletin mensuel sur les opérations de sécurisation. Et enfin, 22 terroristes ont été neutralisés au cours d'un accrochage dans les environs de Seba. L'opération conjointe en question a été conduite du 26 juin au 10 juillet 2022. Elle a mobilisé, selon le bulletin mensuel, plusieurs échelons tactiques interarmes burkinabés et nigériens avec une parfaite mutualisation des moyens d'appui feu et renseignement. Le poste de commandement conjoint PCC était basé à Dori et a regroupé des officiers d'état-major des deux pays, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Cependant, 4 militaires ont été blessés au cours de l'opération et c'est lors d'un accrochage, précise l'armée, dans les environs de Seba. La vie a repris dans les localités de Solan avec un retour progressif des populations. La réouverture des commerces et la poursuite du trafic a rassuré l'armée. À Barsalgo, dans le centre-nord, une attaque d'hommes armés est intervenue le 10 juillet dernier. Selon l'armée, suite à cette attaque, les forces armées militaires ont engagé une contre-offensive d'envergure afin de traquer et neutraliser les assaillants. Cette action, qui a combiné opérations terrestres et aériennes, a permis quelques heures après l'attaque de détruire une base terroriste dans la localité de Bangmyogu, peut-on lire dans le bulletin qui poursuit que la contre-offensive s'est poursuivie sur plusieurs jours et a permis de détruire 3 bases terroristes, dont un plot logistique. Selon l'armée, au moins 27 présumés terroristes ont été abattus. Une importante quantité de matériel, dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication, ont été saisis ou détruits, ajoute-t-elle. L'armée note néanmoins au cours de ces derniers jours une tentative d'isolement de certaines localités par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies. En réponse, les forces de défense et de sécurité disent poursuivre leurs actions de réorganisation structurelle et opérationnelle afin d'inverser durablement la tendance. Toutefois, elles rassurent que des efforts sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits et renforcer la surveillance sur les autres. Ces efforts seront vains sans une participation active des populations, a rappelé l'armée.
Immersion à présent dans le partenariat État-secteur privé. Dans un contexte marqué par l'amenuisement de l'aide publique au développement, la rareté des financements concessionnels et l'insuffisance des ressources propres à l'État, le recours au partenariat public-privé devient une nécessité au Burkina. Pour ce faire, le Premier ministre Albert Ouédraogo a officiellement lancé hier la première session de l'année 2022 de la Commission de partenariat public-privé. Plusieurs secteurs sont concernés. Plus de détails avec Aïna Thiemtoré et Florentine Sommet.
Au moins 6 secteurs sont concernés par cette première session de validation de l'année 2022 de la Commission partenariat public-privé. Sur 25 projets, 17 ont été retenus suivant certains critères, notamment le niveau de maturité du projet et la justification de l'option PPP. Philippe Palinfo, directeur du partenariat public-privé.
Alors, ça rentre dans le cadre justement de la mise en œuvre normale hein, de la nouvelle loi PPP qui a été adoptée en 2021, selon laquelle tout projet qui doit être réalisé en PPP doit passer devant la commission PPP. Voilà, pour bien sûr avoir la validation de cette commission. Et la même commission, avant de valider les nouveaux projets, doit également regarder le niveau d'exécution du programme PPP en cours.
Pour la commission, le taux d'exécution de cette première session 2022 est acceptable par rapport à la dernière session. Philippe Palinfo, directeur du partenariat public-privé.
Concernant le rapport d'exécution, l'un dans l'autre, je pense que le taux d'exécution c'est faible certes, mais au regard des contraintes que les acteurs avaient, je pense que c'est assez acceptable par rapport à la dernière session qui s'est tenue où on était à 5%.
Au Burkina Faso, le déficit en infrastructures socio-économiques est considérable, en plus de l'insuffisance des ressources propres de l'État. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la démarche du gouvernement de la transition de faire le choix de l'expertise et du savoir-faire du secteur privé à travers un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes.
Tout autre chose à présent, et on parle santé, il manquera 18 millions de personnels de santé d'ici à 2030 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La situation sanitaire du Burkina Faso, malgré une amélioration certaine, reste caractérisée par des taux de mortalité générale et spécifique élevés. Quelle nouvelle approche pour faire face ? Pour répondre à ces interrogations, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a tenu une séance de sensibilisation aux hommes de médias sur la nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé, l'auto-soin. Cette activité s'est déroulée au sein de la direction de la santé et de la famille ici à Ouagadougou ce lundi. Les explications de Moumouni Tamboura.
400 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services de santé essentiels. 130 millions ont besoin d'une aide humanitaire selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut impérativement de nouvelles approches novatrices sanitaires pour l'avenir. C'est en ce sens que l'auto-soin est aperçu comme une opportunité. Une directive de l'OMS, elle définit l'auto-soin comme la capacité des individus, des familles et des communautés à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à se maintenir en bonne santé et à faire face aux maladies et aux handicaps avec ou sans l'aide d'un prestataire de soins de santé. Mais attention, il ne faut pas confondre auto-soin et automédication. Valérie Zombré, directrice de la santé et de la famille.
L'automédication, c'est vraiment la personne qui prend la décision, elle seule, de prendre des médicaments. Alors que dans l'autogestion, il y a des directives qui sont données, il y a des filles qui orientent la personne.
Bien que le panier d'objectifs des responsables de santé est large, des difficultés sont rencontrées à plusieurs niveaux. Docteur Clotaire Yen, point focal des auto-soins, rassure l'accompagnement de l'OMS.
Et le Burkina étant un pays pionnier qui met en œuvre déjà cette stratégie, nous sommes vraiment engagés à côté du ministère de la Santé pour que cette stratégie soit développée, mise en œuvre et surtout à l'échelle nationale. Et ça va être pour nous aussi un pays pilote, un pays d'expérimentation.
Les agents de santé attendent voir un monde dans lequel les peuples atteignent le niveau de santé et de bien-être le plus élevé possible. Ils demandent également une réduction des coûts des soins en finançant les services de santé et une amélioration de l'accès aux centres de soins sur tout le territoire burkinabé à travers un seuil de 2 heures établi par l'OMS. Ce projet arrive dans le mois de l'auto-soin pour la santé et le bien-être au Burkina qui se déroule chaque année du 24 juin au 24 juillet.
Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat a installé officiellement hier les membres de la commission interministérielle. Au nombre de 9, les membres de cette commission sont chargés de donner un avis sur la cession des terres du domaine privé de l'État destinées à la promotion immobilière. Les nouveaux membres ont un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. Les détails de cette cérémonie d'installation avec Valérie Guerrier et Neymata Kabouri.
Désormais, 9 commissaires interministériels sont chargés de donner leur sur la cession des terres du domaine privé immobilier de l'État destiné à la promotion immobilière. Et la présente cérémonie marque le début officiel de leur mission. Une occasion pour le patron du gouvernement de rappeler toutes les difficultés liées à ce secteur. Il s'agit entre autres des conflits fonciers, le phénomène d'accaparement des terres, des dysfonctionnements constatés dans le processus de réalisation des projets miniers et la mobilisation du foncier par les promoteurs immobiliers. Albert Ouidraogo.
Des superficies démesurées mobilisées par les promoteurs immobiliers pouvant atteindre jusqu'à 700 hectares. Les sociétés immobilières ont mobilisé plus de 30 000 hectares à Ouagadougou, soit 300 fois plus que la cité des 1200 logements que vous connaissez.
Depuis 2014 à nos jours, le Burkina Faso fait face à un boom foncier passant de 9 sociétés immobilières agréées à 275, ce qui a entraîné des dérives dans ce secteur peu réglementé. Et l'installation des membres de cette commission va permettre de réorganiser le secteur foncier tout en impliquant tous les acteurs, à en croire le ministre de l'Urbanisme, Boukari Savadogo.
Cette commission a l'avantage d'impliquer plusieurs départements ministériels, les collectivités territoriales. C'est pour dire que c'est tout le monde qui est appelé à apporter sa contribution pour une meilleure organisation donc de la promotion immobilière au profit la population et au profit donc du développement de notre pays.
Avant de remettre officiellement ce visuel qui rappelle les grandes missions de la commission, le Premier ministre a invité tous les acteurs à une application stricte des textes qui régissent le secteur foncier et immobilier.
Page internationale de ce journal, la campagne pour la présidentielle se poursuit au Kenya à 3 semaines des élections présidentielles. L'une des têtes de liste, Raila Odinga, s'est adressée à la presse internationale à Nairobi ce lundi. Cet ancien opposant nie être le candidat de la continuité et exhorte la commission électorale à garantir la transparence et l'équité du scrutin. 4 candidats sont en lice pour cette présidentielle, mais le scrutin s'annonce comme un duel entre 2 grands favoris, William Ruto, actuel vice-président, et l'opposant historique Raila Odinga. Certains craignent d'éventuelles violences pré-post-électorales, comme lors des précédentes élections. Raila Odinga, qui s'est toujours posé comme un politicien proche du peuple, a reçu le soutien de son ancien rival, le président sortant, Uhuru Kenyatta, qui après 2 mandats ne peut plus se représenter.
Omega Sport.
L'affiche de la CAN féminine est connue. L'Afrique du Sud sera opposée samedi au pays organisateur, le Maroc, pour l'apothéose finale. Bernabé Cavré.
À 11 contre 9, le Maroc, longtemps en manque d'efficacité, a frappé un énorme coup en éliminant le Nigeria, triple tenant du titre au tir au but, 5-4, un but partout, à l'issue des 120 minutes de jeu au Stade Moulay Abdallah de Rabat. Une rencontre marquée par l'expulsion de 2 Nigérianes à la 48e et à la 70e minute de jeu. Les Marocaines vont affronter l'Afrique du Sud samedi en finale. Les Banyana Banyana ont battu la Zambie 1-0. Une victoire à polémique obtenue grâce à un pénalty discutable, sifflé contre la Zambie à quelques secondes de la fin. CAN féminine toujours, le match Maroc-Nigeria a enregistré le record de spectateurs pour une rencontre de football féminin sur le continent africain. 45 562 spectateurs étaient dans les tribunes du complexe sportif Moulay Abdallah pour suivre la demi-finale entre les Lions de l'Atlas et les Super Falcons. Un chiffre jamais enregistré. Depuis plusieurs semaines, il se dit que l'attaquant Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United afin de jouer la Ligue des Champions. proposé à plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich ou encore Chelsea, le footballeur portugais a trouvé un autre club prêt à le récupérer, l'Atlético Madrid. Cependant, avant de passer à l'offensive sur ce dossier, les Colchoneros doivent vendre afin de dégager des liquidités. Et justement, le journal Marca démasque cette rumeur en assurant que Ronaldo est trop cher pour l'Atlético. Libre après la fin de son contrat à la Juventus de Turin, l'attaquant Paulo Dybala va poursuivre sa carrière sous les couleurs de l'AS Roma. Après de longues semaines de tractations, le footballeur argentin a enfin accepté de rejoindre José Mourinho.
La revue de presse.
La sécurité occupe une grande place dans les parutions du jour. Les quotidiens rapportent notamment les actions de sécurisation du territoire par l'armée. Au plan sous-régional, il y a 7 ans qu'a été signé l'accord d'Alger censé ramener la paix au Mali. En Guinée, cela fait un peu plus longtemps, 13 ans aujourd'hui, que les Guinéens attendent que justice soit rendue aux victimes du massacre du stade du 28 septembre. La revue de presse est avec Brigitte Yoda.
Pour prévenir le dynamitage des ponts par les groupes armés, les nouvelles autorités coupent la poire en deux. L'armée va renforcer la surveillance, mais avec la participation des populations, titre l'Express du Faso. Dans son bulletin mensuel d'information du 15 juin au 15 juillet, l'armée indique avoir neutralisé plus de 80 terroristes en un mois, peut-on lire à la une du pays qui, par rapport à la situation nationale, rapporte le message de soutien du pape François remis au président du Faso par le nonce apostolique du Burkina. Lutte contre le terrorisme toujours, le quotidien appelle à faire la lumière sur les centaines de milliards affectés au FDS. En moins de 7 ans, c'est un peu plus de 1500 milliards qui ont été consentis pour la défense et la sécurité. Mais pour quel résultat, s'exclame notre confrère, pour qui, malgré un budget qui gonfle au fil des années, le Burkina Faso peine à apporter une réponse adéquate au terrorisme jusqu'à être qualifié de ventre mou du Sahel. Bouala, dans le centre nord, a enregistré sa première attaque terroriste, souligne le doyen des quotidiens. À ces hommes politiques et OSC qui ne font plus mystère de leur ambition de faire barrage à la transition si jamais elle travaillait à restaurer un ordre ancien, le journal Bobolais dit ceci. Que ce soit les partisans de Blaise Compaoré ou de Rochma Christian Kabore, ils relèvent tous d'un ancien ordre qui apparemment est le même. Appelant à plus de modestie, l'Express du Faso pense qu'il ne revient donc pas à un individu, une formation politique ou un groupe d'individus de décider de ce que veulent les Burkinabés aujourd'hui comme demain. L'observateur Palga jette ensuite un regard sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako entre les groupes armés et le pouvoir central. À l'heure du bilan, notre confrère dénonce un jeu de ping-pong qui a assez duré et ne présage rien de bon. 7 ans après, quand ce n'est pas le CMA qui accuse les différents gouvernements maliens d'Ibeka à Goïta en passant par Bandao de mauvaise foi et de parjure, ce sont ces derniers qui crient à des actes attentatoires à la souveraineté nationale et disent constater avec indignation que depuis un moment, la coordination des mouvements de l'Azawad s'arroge des actes régaliens de l'État en violation flagrante des termes de l'accord de paix d'Alger, explique l'Obs. Au sujet du massacre du stade du 28 septembre en Guinée, la justice se profile pour les 192 victimes parties civiles estiment aujourd'hui au Faso. Pour le journal, cela fait 13 années, 13 longues années, que le cauchemar, les insomnies, la colère et souvent la résignation restent prégnantes. 13 années que tout cela dure. Pas très optimiste, aujourd'hui au Faso attend quand même septembre pour constater si ce procès sera une réalité. La Guinée ne doit pas manquer ce rendez-vous, a-t-il conclu.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de la rédaction est l'analyste et expert en sécurité, Mamoudou Savadogo. Ces derniers jours, les groupes armés procèdent par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies, les ponts et autres. Selon l'analyste, la destruction de ces ouvrages pourrait présager des attaques de grande envergure dans ces localités. Cependant, plusieurs autres raisons peuvent expliquer ce phénomène. Ces infrastructures appelées des points sensibles méritent une protection particulière, affirme l'analyste.
Mamoudou Savadogo répond aux questions de Lamine Traoré.
Bonjour Mamoudou Savadogo.
Bonjour Lamine.
Ces derniers jours, les groupes armés procèdent par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies, pour ne pas dire les ponts. Comment vous analysez cela?
La destruction des ponts et des ouvrages de franchissement pourrait présager des attaques de grande envergure pour les localités qui ont vu leurs ponts détruits. Cela aussi peut avoir pour objectif de complexifier le déploiement logistique de l'armée qui est en train de se mettre en œuvre pour, dans le cadre des opérations et de la détermination des zones d'intérêt militaire. La troisième hypothèse, c'est empêcher les populations de quitter ces zones d'intérêt militaire afin d'être confondu à la population, donc de mettre encore en difficulté l'armée dans ses manœuvres.
Outre ces infrastructures routières, les groupes armés détruisent aussi les moyens de communication. Dans des localités, il est difficile de passer des coups de fil. Cela aussi fait partie des stratégies de ces groupes.
En plus de ces infrastructures de franchissement qui ont été détruites, nous avons assisté à une destruction systématique au début de l'année 2022 des moyens de communication et aussi d'installations sensibles comme les aérodromes. On a l'exemple de l'aérodrome de Waïguia. Cela découle de la stratégie des groupes armés terroristes qui les permet d'isoler les communes, d'isoler les villages, afin que les VDP et les forces de défense et de sécurité ne puissent pas intervenir en temps, donc pour empêcher les populations de communiquer avec les VDP et les forces de défense et de sécurité, et aussi pour couper les populations et aussi les villages du reste du monde, ce qui les isole davantage et donc les laisse à la merci de ces groupes armés terroristes.
Comment faut-il faire, Mamoudou Savadogo, face à la destruction de ces infrastructures?
Ces infrastructures sont appelées des points sensibles, des zones sensibles, alors ils méritent une protection particulière. Dans tout combat, une des stratégies est effectivement la protection des points sensibles. Et il faut impérativement mettre un dispositif de protection autour ou bien sur ces points sensibles pour empêcher la destruction de ces points sensibles, parce que ça peut entraîner et handicaper l'action des forces de défense et de sécurité, et ça peut aussi contraindre les populations à subir les exactions et la violence poussée de ces groupes armés terroristes. D'où la nécessité de prendre soin et d'où la nécessité d'en faire une protection au plus haut degré.
L'armée, elle, demande la collaboration des populations pour protéger ces infrastructures. Est-ce que cela suffit?
Elle ne suffit pas parce que ces populations sont démunies. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'aider la population à protéger ces infrastructures. Il faut une présence marquée de l'armée. Il faut sensibiliser les populations. Ce que les populations peuvent faire en aidant l'armée, c'est de donner l'information lorsque ces groupes armés sont en train d'installer des JED, des mines pour faire exploser le pont. Ces populations, lorsqu'elles signalent aussi, s'exposent à la vindicte de ces groupes armés. Donc, la seule solution, ou bien la solution la plus pérenne ou l'idéal, c'est effectivement une présence marquée des forces de défense et de sécurité, et afin d'empêcher les groupes armés d'isoler deux villes ou deux communautés.
L'armée a interdit la circulation des motos dans certaines zones. Est-ce que cela est un moyen efficace pour lutter contre ce phénomène?
Selon moi, l'interdiction de circuler va complexifier davantage l'alerte même des populations. Il va complexifier davantage la situation de vie des populations parce que c'est le seul moyen par lequel ils arrivent effectivement à atteindre les villes pour pouvoir se ravitailler et aussi pouvoir se soigner. Et aussi, c'est le seul moyen par lequel aujourd'hui, ils peuvent alerter les forces de défense et de sécurité, étant donné que les moyens de communication sont coupés par endroits, et étant donné aussi qu'ils commencent à couper les infrastructures routières. Donc il n'y a qu'avec les motos qu'on puisse peut-être passer à travers un pont qui est cassé, ou avec les motos qu'on peut atteindre une ville pour signaler leur présence. Donc ça risque d'être contre-productif si toutefois on n'empêche pas aussi les groupes armés terroristes de circuler et de venir agresser les populations.
Merci Mamoudou Savadogo.
Merci Lami.
Fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré, Ibrahim Niaouné pour le live Facebook. Excellente suite des programmes sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Oh,
Omega Vacances est de retour pour vous faire vivre des vacances et des week-ends de folie. Venez tous les samedis dans la salle Nelson Mandela au premier étage de IAM ZAD pour faire la fête avec votre animateur HK, Ahmed Kossa et ses invités de marque et le prestige. Passez des week-ends de rêve à travers différentes rubriques qui vous mettront plein de joie dans le cœur. Omega Vacances, c'est tous les samedis de 16h05 à 17h40 sur Radio Omega Ouaga et Bobo et en direct sur la page Facebook de Radio Omega. Partenaires officiels, Move Africa, IAM, Carlos Design, Keops Record, Phil Contact.